Voilà, c'est bon. Alors, j'appelle ça un rendez-vous préparé d'avance, mais pas du hasard. Moi, j'aime. Il y en a qui croient au hasard ici, ou qui croient à l'intervention de Dieu. Voilà. Alors, bien sûr, il faut du discernement. Tout n'est pas intervention de Dieu. Mais quand Dieu intervient, il faut le discerner et le prendre au bon niveau pour continuer à avancer comme Dieu nous parle. Et là, la rencontre de Thierry Marilyn était vraiment préparée d'avance. Ce sont des membres qui nous ont soutenus dans la création de cette église quand on l'a achetée. Ils sont venus en 93, on l'a achetée en 90, et ils ont vécu toutes les phases de démarrage de cette église. Ils ont évolué en bien, je dirais, en bien dans le sens de l'intercession prophétique. Et la connexion avec Israël, qui nous ont parlé beaucoup de la terre, avec voilà, ils ont beaucoup de choses à nous partager. Ils sont en retraite maintenant, ce qui fait qu'ils sont disponibles. Et voilà, ils sont prêts. D'après, on était très très encouragés. On est resté toute une journée avec eux, même on a dormi chez eux. Et ils se rappellent extrêmement bien de la vision du phare donnée par les prophètes, qui étaient d'ailleurs chez eux. Et ils sont prêts à revenir pour nous aider à réaliser le phare, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas encore terminé. Et en même temps, ils ont mis en contact avec Anne Griffiths, qui est une prophétesse qui vient du nord de l'Angleterre, et qui, elle, a été utilisée dans l'Église en 98 de manière magistrale. Elle a un très très fort don prophétique. Et elle est prête à revenir. Il faut simplement que je lui explique la situation aujourd'hui, parce qu'elle ne vient plus en France, mais elle a dit qu'elle viendra exprès en France pour nous, si elle sent que Dieu l'appelle à cela. Voilà, donc il faut prier pour ça, pour cette rencontre qui vient de se passer, et qui augure, en fait, des aides de l'extérieur, ce que j'espérais. Qui se passe, mais ça se passe concrètement et plus rapidement que je pensais, c'est-à-dire l'ouverture du phare vers l'extérieur. J'aimerais parler d'Esdras d'abord. Alors, où est-ce que j'ai mis le papier? Esdras, chapitre 3, versets 1 à 3. Je lis le verset 1er du chapitre 3. Et quand arriva le 7e mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville. Le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Il s'assembla comme un seul homme. Voyez-vous, le corps de Christ, Charles en a partagé mercredi dernier, que nous sommes un corps, et un corps, il y a un corps. Il n'y a pas deux corps, il y a un corps, mais plusieurs membres. Et donc, un seul homme, c'est pareil, c'est un seul corps, un seul homme. Vous savez que l'Église, en tout cas en France, mais ailleurs aussi, elle est déclarée comme association cultuelle, et c'est un corps, pardon, c'est une personne morale, on appelle ça une personne morale. Personne morale, c'est des gens qui s'associent avec un but, avec un objectif, etc., avec des statuts. Bon, c'est une personne morale. Elle est représentée par des pr un président, un bureau, etc. Voilà, c'est une représentation pour faire marcher au quotidien. Mais le corps ou l'église locale est une personne morale. Et là, on voit que c'est une personne morale, c'est une personne. Les fils d'Israël se rassemblèrent comme une seule personne à Jérusalem. La première condition, et on va parler tout à l'heure de la vision du phare, c'est de s'unir ensemble dans une même vision, même si cette vision est complexe, c'est-à-dire la vision du phare est complexe parce qu'elle est physique, parce que c'est un lieu. Dans ce lieu, il y a un lieu de culte, mais il y a aussi une maison de prière, il y a aussi une salle de formation, il y a voilà, déjà le lieu lui-même. Il est composé de plusieurs choses. Ensuite, psychologiquement ou anthropologiquement, si vous voulez, en tant qu'être humain. Il y a déjà plusieurs équipes, une équipe opérationnelle, une équipe apostolique, il y a plusieurs pasteurs, il y a un pasteur opérationnel, un pasteur titulaire que je suis, donc je suis encore responsable de l'Église en tant que pasteur titulaire, devant les autorités, etc. Donc voilà, c'est complexe parce qu'il y a deux choses qui n'ont pas le même but exactement, mais qui sont ensemble. Et ensuite, spirituellement. Spirituellement, c'est complexe. De penser à un corps spirituel qui ne voit pas, vous avez déjà vu le corps spirituel de Christ ? On ne le voit pas. C'est l'Église universelle, de tous les temps et dans tout le monde. C'est ça, un corps. Et c'est un seul corps. Ensuite, après, il y a l'Église locale que nous sommes. Et il y a énormément d'Églises locales dans le monde. Et c'est aussi le corps de Christ. C'est aussi un, vous voyez ? C'est un. C'est pas plusieurs ensemble, c'est un, on représente le corps spirituel de Christ. Et ensuite après, le corps régional, interlocal, on se rassemble par exemple dans le Montois à plusieurs. Et donc on est dans quelque chose qui est plusieurs choses en même temps. Et là on est perdu, parce qu'on se concentre sur une chose et puis on oublie l'autre, etc., alors que c'est toujours un seul corps. Donc je voudrais insister là-dessus que l'ouverture du livre d'Esdras, c'est qu'il s'assembla, il arrivait le septième mois, et le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Or, ce que je vous dis, qui est complexe, n'est pas possible humainement. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et on le voit au verset 5 du chapitre 1er d'Esdras, « Dieu réveilla leur esprit. » Dieu réveilla leur esprit. Si Dieu ne réveille pas l'esprit du peuple, que ce soit Israël ou l'Église aujourd'hui, on ne peut pas être unis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez le nombre, on n'est pas beaucoup, mais le nombre de nationalités différentes qu'on représente, avec des cultures différentes, avec des approches différentes, avec des pensées différentes, avec, etc. Pour être un, ce n'est pas possible humainement. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a que Dieu. Et Dieu doit réveiller notre esprit pour qu'on marche dans l'esprit. Si on marche dans la chair, on est divisé tout de suite. Et on a vu la crise qu'on a connue dans la chair, vous divisez tout de suite. Dans l'esprit, on est un. Et si on converge dans l'esprit, avec un seul esprit, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui le fait au milieu de nous. Le deuxième verset, je lis Joshua, ou Jéchoa, fils de Josadac, et ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, et ses frères se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. La deuxième chose, la première, c'est s'accorder sur une seule vision. Le deuxième, c'est construire un autel pour les holocaustes. Avant de construire le temple, ils ont construit un autel. Ils se sont rassemblés, se sont levés, ils ont pris des pierres, ils ont fait un autel. Et ça, ça représente la priorité absolue. Et ce n'est pas des offrandes de reconnaissance, ce n'est pas des offrandes de pardon, parce qu'ils ont péché, c'est des offrandes d'un holocauste. Et c'est quoi un holocauste ? C'est qu'on prenait les animaux, on les brûlait totalement. Or, l'holocauste aujourd'hui, dans la signification du Nouveau Testament, c'est que nous, nous devons monter sur l'autel et nous laisser brûler complètement. Et ça, c'est pas évident. Dans une église, si on ne se laisse pas brûler complètement en holocauste, il y aura toujours des divisions, des problèmes, des incompréhensions, etc. Parce qu'en fait, notre chair, elle est là. Et c'est elle qui divise. Notre esprit, non. Et si nous nous laissons consumer complètement, donc commencer par l'autel, eh bien là, les choses peuvent avancer. Donc ça, c'est la deuxième chose qui se fait. Ils se levèrent et bâtirent l'autel. Ensuite, verset 3, « Et ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. Et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes le matin et le soir. » Ils se sont consacrés. Premièrement, ils s'accordent pour avoir une seule vision. Deuxièmement, ils construisent un autel. Et troisièmement, ils se consacrent dans un holocauste chaque jour, matin et soir. Et c'est ça que j'apprécie dans cette nouvelle dimension, dans cette phase du phare que nous vivons, eh bien, c'est que Dieu a levé des intercesseurs comme Charles, comme Constant et d'autres. Et mercredi dernier, je l'ai dit à l'église, enfin, qui était rassemblée, j'ai dit, j'étais réjoui de voir qu'il y avait 7 hommes à la réunion de prière. Il y avait 2 femmes, 7 hommes. En général, c'est l'inverse. Dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. La réunion de prière commune, hein, je sais que le matin, il y a aussi des réunions de femmes qui prient, ce n'est pas le problème des prières, c'est le problème d'être ensemble. Parce que Acte 2, 42 disait qu'ils étaient tous ensemble à prier et à rompre le pain, etc. Vous connaissez le passage des Actes des Apôtres. Et bien là, j'ai dit, c'est un signe. En tout cas, ce n'est pas grand-chose, 7, mais c'est le signe de la perfection. Moi, ça m'a parlé. Et je dis, si là, il y a 7 hommes qui prient, je veux dire, ça y est, c'est le démarrage, que Dieu est en train de faire quelque chose. Maintenant, je prie pour que d'autres hommes prient, qui viennent à cette réunion. Par exemple, 1 Timothée 2, verset 8, voilà ce que la parole de Dieu dit. Il dit, je veux. Paul dit, je veux. Donc, que les hommes prient. Je veux, donc. Donc, Oscar, qui tous les dimanches parle de la prière et insiste sur la prière, il a raison d'insister. Parce que Paul lui-même, la parole de Dieu dit, je veux que les hommes prient. C'est un ordre, on ne peut pas discuter un ordre de la parole. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Pures, c'est-à-dire, voilà, il faut passer par la repentance, il faut accepter l'humilité, il faut se frotter les uns les autres, etc. Sans colère, ni arrière. Après, il parle des femmes, mais les hommes prient. Et si des hommes prient, je peux dire que ça change l'Église. Ça change la situation dans cette région et ça change les choses. Et vous voyez, il est dit que la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. C'est-à-dire que l'ennemi, comme le dit souvent Oscar, l'ennemi n'est pas en vacances. Il ne veut pas qu'une église se lève comme cela et qui prenne des parts sur son terrain, puisque c'est le prince de ce monde. Donc il ne veut pas qu'on empiète sur ses plates-bandes. Donc si des hommes prient, je peux vous dire que ça change. Et moi je me réjouis de ce qui se passe en ce moment, même si c'est des petits commencements. Vous savez, comme Élie, la petite, quand il a vu le petit nuage, il dit « Ah, ça y est, c'est en train d'arriver ». Et là, on est dans cette phase, et je me réjouis. Alors, c'est un appel à nous responsabiliser. Cette introduction, je voudrais que ce soit un appel à nous responsabiliser. Je vais vous expliquer pourquoi il faut se responsabiliser dans cette église. Là, je parle à l'église locale. Parce que Dieu avait favorisé l'établissement de chrétiens protestants huguenots, qui s'appelle réformé, les catholiques disaient prétendu réformé, parce qu'ils ne voulaient pas accepter que la réforme touche à l'Église catholique, donc prétendu réformé, RPR. Au XVIe siècle, il y a eu une communauté une des plus grandes dans la région, à Vaux, en Aubergenville, puisqu'Aubergenville, c'est une commune avec 2 hameaux, Vaux et Elisabethville. Et Dieu avait favorisé l'établissement pour être un phare, c'est-à-dire un leader. Un leader. Et ils étaient leaders. Ils étaient leaders dans cette région à l'époque du XVIe siècle, il y a 500 ans. Et quand Dieu fait quelque chose, eh bien, c'est Dieu qui fait. Il y en a qui croient que Dieu a fait ça ou que c'est le hasard? Quels sont ceux qui croient que Dieu a incité ces protestants à s'installer à Vaux? C'est une question de foi. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas un problème. Moi, j'y crois. Parce que je regarde, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que Dieu fait. Et si Dieu fait quelque chose, eh bien, il faut être attentif à ce qu'il fait. Comme Jésus était attentif à ce que son Père faisait dans le ciel, et il le faisait. Donc, Dieu a favorisé l'installation de ces huguenots pour différentes raisons. Entre autres, quand j'ai fait la recherche, c'est quand même incroyable, c'est que j'ai vu que celui qui était le plus influent à l'époque, il fait partie des ancêtres de la famille Rollet, de M. Rollet, Et j'en ai la certitude, je te montrerai tout à l'heure, Julie, que c'est bien lui. Donc, c'était quelqu'un qui a tellement influencé, c'était le troisième personnage après Calvin, et qui avait un contact direct avec le roi en France. Donc, voilà, on a en plus un témoignage d'une présence ancestrale, et Paulette Le Tourneur, qui était une fidèle parmi les fidèles d'entre nos membres pendant très longtemps, eh bien, son ancêtre, qui était pasteur, il officiait dans ce temple à Vaux-les-Huguenots et nous en parlait assez souvent. Nous sommes en quelque sorte des Huguenots de l'Église prétendue réformée, revenus de l'exil de 1685. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1685 ? Vous savez que dans notre pays de France, il fallait qu'il y ait un roi, une loi, une religion. C'était la religion catholique qui a été choisie comme la religion. Tout ça pour unifier le pays. À l'époque, c'était ça qui unifiait. Maintenant, c'est de la laïcité. À l'époque, c'était la religion. Donc, c'était la religion catholique. Donc, le roi était catholique, tout le monde était catholique, tous les sujets étaient catholiques, et il fallait que protestants, c'est des hérétiques, il fallait qu'ils quittent le royaume. Donc, il a décrété un édit, qui s'appelle un décret, un édit de Nantes, qui a dit que c'est interdit, le protestantisme est interdit en France. 1685. Du coup, ils ont dû fuir. La plupart de ceux qui ont quitté sont allés à Londres, paraît-il. Mais il y a eu un deuxième exil. Le deuxième exil, c'est aux environs de 1900, parce qu'on a les registres d'Aubergenville qui disent qu'il n'y avait plus qu'un protestant en 1900. Voilà. Alors qu'ils avaient créé un temple en 1840. Donc ça veut dire 60 ans, pendant 60 ans le temple fonctionnait. D'ailleurs, il est tombé en ruine après, hein, mais il n'y avait plus personne dans le temple. Oui. Donc une désertion des Huguenots. Alors qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Il semblerait qu'ils se soient dispersés dans la région. Voilà, ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas renié leur foi, mais ils ont... Voilà. Et moi, je dirais que ce qui s'est passé, enfin, dans le monde spirituel, c'est que ces Huguenots ont abandonné le temple que Dieu a donné, qui était une résurgence de la bénédiction précédente des premiers Huguenots, de manière insouciante. Insouciante, pourquoi ils sont allés ailleurs ? Il n'y a pas eu de persécution à ce moment-là. Hein. Il y a eu certainement des difficultés. Mais il n'y avait plus de leader. Et il n'y avait plus de vision. Vous voyez ? Et c'est toujours la même chose. Quand il n'y a pas de vision et pas de leader qui dirige la vision, leader, ça veut dire quelqu'un qui a la vision et qui entraîne les autres dans la vision. C'est ça la définition de leader. On n'a pas l'équivalent en français, c'est un mot anglo-saxon, mais qui dit cela. Eh bien, faute de leader et de vision, ils ont laissé se construire ici cette ville d'Elisabethville, qui est un projet de l'homme qui se divinise. Oui. Donc, en fait, Dieu aurait voulu à l'époque que des chrétiens se mobilisent. Ils n'étaient plus là. Il n'y avait plus personne pour défendre la cause. Voyez-vous comment l'ennemi fait ? Il fait toujours la même chose. Il disperse. Il disperse les chrétiens d'une église locale pour arriver à ses fins. C'est assez facile. Hein. En plus, c'est facile à disperser. Hein. Il suffit d'utiliser la chair, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans l'esprit, on ne peut pas se disperser, on est un. On est un seul corps. Mais dans la chair, on est forcément dispersé. Donc, moi je dis, en tant que pasteur titulaire de cette église, responsabilisons-nous que nous avons cette responsabilité aujourd'hui, parce que Dieu nous a mis dans cette église, même si on ne le savait pas, et bien que ce reste que nous sommes, et bien Dieu nous a appelés en nous révélant ce dessein bienveillant. Dieu a un dessein bienveillant, Philippiens 2, 12 et 13. Il a un dessein, un plan, il a un but, il a un objectif bienveillant pour cette église d'Aubergenville, Elisabethville maintenant, puisque on est sur la même commune que Vaux. C'est un dessein qui a commencé maintenant il y a 500 ans. Donc vous voyez, c'est un privilège. C'est un privilège. Et je peux vous dire, quand Anne Griffiths va venir, là, vous serez étonné de la dimension prophétique qui est là. Elle sent ces choses. Le sang des martyrs à un endroit, c'est sacré pour Dieu. Et il défend la cause de ceux qui ont été martyrisés, en particulier ici, mais aussi en France. Donc, levons-nous et bâtissons. C'est ça que j'aimerais vous laisser, ce slogan. Levons-nous et bâtissons le phare d'Elisabethville, d'Aubergenville, si vous voulez, c'est la commune, mais la localité, c'est ici, à partir de ce lieu que Dieu nous a donné. Alors, c'est quoi la vision ? Alors, c'est très intéressant parce que Dieu m'a parlé pendant les vacances, j'ai un peu travaillé la question, j'avais du temps. Et Osée, chapitre 4, verset 6, dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Alors, la connaissance, si vous regardez dans le grec, hein, il y a plusieurs... vous savez, un mot est utilisé dans différentes phrases, donc il a plusieurs acceptions possibles. Donc, la connaissance, c'est que c'est une vision du monde qui se représente la réalité alentour. Par exemple, tout à l'heure, on a dit que les ennemis étaient furieux contre le peuple. Mais si vous ne voyez pas ça, si vous ne voyez pas que l'ennemi est furieux autour de nous, bon bah vous êtes dans une douce quiétude et tout marche très bien, mais sauf que ce n'est pas la réalité. L'ennemi ici, spirituel, il n'est pas content qu'on soit là. Vous voyez ? Ça fait partie du démarrage d'une compréhension spirituelle des choses. Comme l'ennemi n'était pas content que Jésus vienne pour sauver l'humanité. Mais il continue avec l'Église. Donc c'est une vision, la connaissance d'une vision qui nous entoure et qu'il faut combattre, il faut se lever. Parce que l'ennemi s'oppose au dessein bienveillant de Dieu. Dieu a un dessein bienveillant. Et je vais le rappeler tout à l'heure, quel est ce dessein. Pour ce qui est « Mon peuple est détruit », on peut dire « Il est arrêté, il est perdu, il est ravagé ». En état de chaos, voilà, différentes manières. Si mon peuple, voilà, il est décomposé, il est mis en miettes. Hein, et vous voyez que, oui, il n'y a pas que notre Église qui a des difficultés. J'en parle avec des pasteurs, des difficultés dans le monde entier aujourd'hui, l'Église, parce qu'il y a un esprit qui veut grandir. Le prince de ce monde veut grandir ses adeptes pour, si possible, arrêter la venue de Jésus, ce qui ne pourra pas, bien sûr. Mais, en tout cas, lui, c'est son désir. Donc, si mon peuple est ravagé, il est détruit dans le chaos, parce qu'il lui manque la connaissance, il lui manque cette vision du monde, ce qu'on appelle un paradigme, et c'est ce que je porte, ce paradigme que Dieu m'a aidé à comprendre depuis qu'on est là, en particulier. L'autre point, c'est le leadership. Il faut un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui entraîne d'autres personnes dans la vision. Ou quelqu'un qui monte l'Everest, tout ça, voilà, il entraîne, c'est un leader, il encourage, il dit non, on va y arriver, parce que ceci, voilà, ça. Donc le leadership. Et là, dans Juges, chapitre 17, verset 6, il est dit, « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. » C'est intéressant parce que Michel et moi, on a eu l'honneur et la grâce d'être John Wimber qui l'a représenté sur ce panneau, qui était un homme de Dieu, qui était sur la parole, vraiment plus que la parole. Il était imbibé de la parole de Dieu, de la théologie de Georges Ladd que j'ai enseigné ici, sur le royaume de Dieu. Mais il y avait des miracles incroyables. On a vécu des miracles pendant 3-4 ans à Londres, en Angleterre, quand il est venu. Et il y a des pasteurs qui ont tout fait pour qu'il vienne en France. Mais il dit non, je ne suis pas appelé en France. Il est appelé en Allemagne, en Angleterre, mais pas en France. Et du coup, il est venu parce qu'ils ont tellement insisté. Et il était là plusieurs fois à Paris. Et quand il a prêché, il a dit, vous êtes comme les juges, là, en France. Faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qui lui semble bon, vous voyez. Elle dit, il n'y a pas de leader en France. Il n'y a pas de leader. On a peut-être un roi, on a peut-être même pas un leader. Vous voyez. Et c'est ça qui manque en France. un leader, un père, quelqu'un qui conduit, etc. C'est quelqu'un qui règne, donc le roi, bon, à l'époque c'était les rois, hein, mais les rois qui règnent, qui occupent le trône, qui lead un peuple en montrant l'exemple. C'est-à-dire un vrai leader, il montre l'exemple. Il va devant. C'est pas quelqu'un qui dit, il n'y a qu'un faucon, il faut que tu fasses, etc., qui donne des ordres. C'est quelqu'un qui fait, qui va devant et qui entraîne le peuple à faire la même chose et entraîne dans une vision. Donc ça, c'est important qu'on rétablisse le leadership. Et je suis reconnaissant à Charles qui a compris ça et qui a permis à la tempête spirituelle de s'arrêter parce que il a retrouvé la notion du leadership. Alors, ce qui est important, je vais vous révéler quelque chose que vous allez apprendre tout au long de cette année, c'est que on a une histoire commune, Jérusalem, Yerushalam, Shalem. Il y a le mot Yeru, c'est la ville de la paix, Jérusalem. L'histoire qui est racontée dans Esdras et Néhémie, qui en fait chez les Juifs c'est un rouleau. Il n'y a pas de livre, hein, dans nos Bibles, il y a deux livres, mais il y a toujours aujourd'hui un rouleau d'Esdras, dans lequel il y a Esdras Néhémie, qui trace l'exil des Juifs qui ont été déportés à Babylone, et au bout de 70 ans, ils sont revenus. Donc l'histoire de l'exil des Juifs de Juda, et l'histoire de l'exil des Huguenots de Vaud, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une similitude. Une similitude absolument incroyable. Et Dieu me l'a montré. Cette similitude, c'est que le dessein de Dieu, donc le plan de Dieu, passe par trois étapes. La première étape, c'est le temple. L'autel, le temple. Hein, on va commencer par l'autel, et ensuite le temple autour de l'autel. Donc, construire le temple. Ensuite, reconstruire les ministères de service dans le temple. Et ça, c'est Esdras qui l'a fait, parce qu'il était scribe, il connaissait, alors que Zorobabel ne l'était pas. Et ensuite, les murailles et les portes de la ville de Jérusalem. Et ces trois étapes, on les retrouve dans le livre d'Esdras et Néhémie et dans le récit de l'église d'Aubergenville. Alors, l'histoire du récit de la reconstruction de Jérusalem, c'est sur 100 ans. Voyez-vous, c'est quand même de la reconstruction, hein. 70 ans d'exil, 100 ans de reconstruction, sur 100 ans. Donc c'est selon le rouleau d'Esdras, qui contient aussi Néhémie, et Dieu utilise des hommes, parce que c'est la terre des hommes, qui font confiance à Dieu, mais Dieu utilise des hommes, comme aujourd'hui encore. Et Cyrus, donc à l'époque, au commencement d'Esdras, c'était Cyrus. Mais Cyrus a été remplacé à l'époque, les empereurs, ils duraient pas très longtemps, c'est par Artaxerxès. Donc Artaxerxès était à l'époque de Némi et Cyrus à l'époque d'Esdras. Et tous les deux, ils ordonnent le retour des Juifs. C'est-à-dire, c'est les empereurs païens qui ordonnent le retour des Juifs. Et Zorobabel, qui était un haut fonctionnaire, un dignitaire, voilà, c'était pas du tout un prêtre ou quoi que ce soit, mais quand même de la lignée de Juda, c'est-à-dire il descendait de Juda, il a reconstruit le temple physiquement. Il a reconstruit physiquement le temple. Ensuite, Esdras, qui était un scribe très très instruit, eh bien, il a été envoyé par toujours Artaxerxès pour organiser le culte. Les ministères, les fonctions, les Lévites, vous savez, le culte d'Israël était assez compliqué, beaucoup de choses, c'était toute une tribu qui s'occupait du culte. Et Néhémie, qui a été envoyé plus tard pour reconstruire la ville de Jérusalem, la ville de paix, où il y a la paix. Eh bien, j'ai trouvé que le Seigneur m'a révélé que la construction du phare d'Élisa suit exactement les mêmes étapes. Je vais écrire des mémoires avec de nombreux témoins qui vont participer, j'ai déjà commencé, pour qu'il y ait un récit depuis le départ, hein, ça commence en 83 à Orgeval avec les CC grecs, jusqu'à maintenant, donc 40 ans d'histoire, on a 40 ans d'histoire, de la construction de ce phare, qui n'est pas terminé, mais qui est déjà bien, bien visible à travers cette église. Et c'est ça que je dois faire pour Anne Griffiths, entre autres, pour lui donner les éléments de son retour qui c'est probablement qui va se faire. Tu utilises des hommes à nouveau. Et quels sont les hommes qui l'utilisent? Eh bien, Monsieur Villemagne. Monsieur Villemagne, c'est un architecte avec qui j'ai travaillé, qui maintenant est mort il y a quelques années, qui était au Murau, et qui possédait ce lieu, mais je ne savais pas, mais je travaillais avec lui, pour édifier un temple, construire un temple au Murau, dans la zone industrielle des Murau. Et j'ai travaillé avec lui pendant un an sur ce projet. Et quand tout était prêt, juste à donner le tampon de la mairie des Murau, il y a eu un refus. Dernier moment, alors que tous les travaux, tout ça était fait, on avait des accords préalables et tout ça. Et M. Villemagne, en sortant du cabinet du maire, a dit, M. Hubert, ça, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas ce qu'ils vous ont fait. Il a dit, si vous étiez musulman, ils vous l'auraient accordé, etc. etc. Bon. Il dit, moi, je pense avoir quelque chose pour vous, parce que je connais votre besoin, parce que j'ai travaillé sur le besoin avec lui. Parce que c'était aussi un architecte d'intérieur. Et donc, il a dit, eh bien moi, j'ai quelque chose. Alors ça a pris du temps, parce que c'était les communistes qui l'avaient ici. C'était inconcevable de vendre ça des chrétiens. Inconcevable. Il était rouge, 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 avec le fossile, le marteau, tout. Enfin, vous aviez tout ici. Et en plus, c'était des ruines. Eh bien, Villemagne a dit, Monsieur Hubert, moi j'ai quelque chose pour vous, et vous l'aurez. OK. Un converti, Dieu utilise un converti, comme un Artaxerxès. Ensuite, les CCY, qui avaient été créés en 1983, eh bien, moi j'étais CCY avec deux autres anciens, eh bien, on a reconstruit le temple. Aussi, de manière miraculeuse, avec les ouvriers du Christ, que je ne sais plus comment tu t'appelles, Marilyn. Eh bien, elle connaît un peu sa fille, Dani. Voilà. On a été bénis, on a été aidés pendant 7 ans par des ouvriers de Christ qui ont construit ce lieu. Ensuite, l'EPEA, donc Église protestante évangélique de Bergerville, s'est créée sur des fonts baptismaux en 2000, 5 décembre 1999 exactement, pour organiser le culte. Et là, on a travaillé pendant 20 ans à organiser le culte. Et maintenant, le reste, peu importe le reste, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est pas une question de nombre, le reste à reconstruire les murs et les portes d'Élisabethville, de la ville, pour devenir une Jérusalem. C'est ça l'objectif. Pour devenir une ville de paix, pour devenir un shalom, pour devenir un phare qui va rayonner pour évangéliser cette région. Parce que quand moi je suis arrivé avec Michel, moi je me suis converti en 67, vous voyez, c'est pas d'hier, quand j'ai rencontré Michel, on évangélisait à Paris. Pour nous, c'était l'évangélisation de notre vie. Quand on est arrivé ici en 1974, on évangélisait. On allait dans les rues, on allait partout, etc. Nous, c'est l'évangélisation, sauver des âmes. Eh bien, ça, le Seigneur l'a vu. Et les CCY, l'idée, c'était le fraisier. C'est-à-dire de faire des églises. Toutes les Yvelines étaient remplies des églises pour l'évangile. Voilà. La vision était bien. Le moyen d'y atteindre, c'est différent. Et justement, le Seigneur nous a montré avec le phare ce qu'il fallait éviter de faire parce que l'ennemi, il faut le contourner. Donc, vous voyez, deux récits, deux étapes, deux parcours avec les trois étapes. Aujourd'hui, à peu près 40 ans de vie. Alors, la finalité, c'est quoi? Mais la finalité, c'est qu'en plus d'une église locale, qui est ici déjà depuis maintenant 30 ans, eh bien le phare sera aussi un centre apostolique missionnel. Alors c'est quoi le centre apostolique missionnel? Ben, vous avez l'exemple de Tyrannus. Quand vous lisez votre Bible dans les Actes des Apôtres, on voit que Paul, il est resté pendant 2 ans à Éphèse, et non seulement il y avait une église, mais il y avait un centre de formation accéléré, enfin, pour leader. Et à partir de là, il partait avec des équipes. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous écoutez le pasteur Émile Nicole, qui était venu il y a un an, nous expliquer ça, que c'est la nouveauté en fait de ce que Paul a fait qui est différent des synagogues. Les synagogues, c'était des lieux locaux. Voilà, et chaque lieu était séparé. Tandis que là, il y a des équipes mobiles qui viennent pour aider des églises locales. Alors, il y avait un centre à Éphèse, il y avait un centre à Antioche, il y avait un centre à Corinthe, il y avait un centre à Jérusalem, vous voyez. Donc, voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur remet en plus ces centres à goût du jour, je dirais. Il y a un livre là-dessus, je sais que Charles est là, comment il s'appelle, c'est les... Tu l'as ici, en plus? Non, je vois que tu regardes. Attends, j'aurais pu le montrer. C'est Alain Caron, en fait, je trouve qu'il est très bien, qui explique effectivement que le centre missionnel, c'est à partir d'une église, et tout en étant église, eh bien, il y a aussi un centre de formation, un centre de rayonnement, etc. Pour envoyer des équipes missionnaires dans tout le GPSO, déjà, parce qu'il faut commencer par évangéliser notre région, et au loin. Voyez-vous, et au loin, aujourd'hui. Déjà, en retour de Thierry et Marilyn, ils vont déjà en Israël, ils vont déjà partout au Québec, Bacha, etc. Anne Griffith, c'est aux États-Unis aujourd'hui. Voyez, si tout ce monde-là se regroupe, pour moi, ça va déjà trop vite. Tellement le Seigneur met déjà les choses en route. Parce que ça vient du Seigneur. Ce n'est pas possible humainement. Voyez. Donc on est dans une dynamique absolument enthousiasmante. Et je voudrais vous transmettre cet enthousiasme ce matin. Il y a deux équipes aujourd'hui dans cette église qui sont interdépendantes. Ils ne peuvent pas vivre séparément. Il y a une équipe de direction opérationnelle que vous connaissez, Oscar, Florence, Alexis, Jérôme, Charles, j'oublie personne, opérationnelle, qui conduit l'église locale et le culte en particulier. C'est pour ça que je suis très content que je sois débarrassé de tout ce qui est opérationnel du culte, parce que ce n'est pas mon rôle. Je l'ai fait pour aider l'Église, mais pas mon rôle. C'est le rôle de l'équipe opérationnelle. Mais il y a une autre équipe qui s'appelle l'équipe de direction apostolique. Aujourd'hui, on ne prend pas ce terme-là encore, parce qu'on mettra trois ans, à peu près trois ans, pour que l'Église puisse digérer ça, etc. Je me donne trois ans. Il s'appelle comité de direction, CDD. Aujourd'hui, c'est l'équivalent du comité apostolique plus tard. Pourquoi ? Parce que dans le comité de direction apostolique, il y aura des gens de l'extérieur de l'Église. C'est pas uniquement l'extérieur au sens du GPSO, par rapport à Vidal. Enfin, après, c'est des gens qui veulent pas. C'est à moi de créer les contacts avec Baptiste, Baptista, etc., Kevin Baptista et autres. Mais bon, j'ai la vision. Après, c'est Dieu qui mettra ensemble. Aujourd'hui, c'est le CDD. Qui conduira la construction du centre apostolique missionnel du phare d'Élisa. Ce lieu sera appelé le phare d'Élisa, que ce soit l'église ou que ce soit le centre missionnel. Et ces églises sont interdépendantes, ces deux équipes sont interdépendantes, et sont totalement centrées sur la même vision. Sinon, déjà là, ce serait une catastrophe qu'il y ait deux visions. Celle du phare, avec sa maison de prière, que Dieu nous a demandé d'édifier dès qu'on est arrivé ici. Il a dit, cette maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et ça, il a dit, avant que même on commence les travaux. Je l'appelle Elisheva parce que c'est Élisabeth en hébreu qui veut dire Dieu est ma demeure. Nous voulons que Dieu soit ici dans sa demeure et qu'il demeure au milieu de nous. Alors que ici, l'église, enfin ici, la ville, je ne sais pas si vous connaissez le nom de la ville, c'est moi, je suis ma demeure. Voyez-vous ? Et pourquoi c'est comme ça ? Eh bien parce que la reine Élisabeth de Belgique en Bavière, en 1927, a créé ici un lieu consacré aux divinités démoniaques d'Isis, d'Osiris et d'Horus. Et ça, vous avez les traces, il suffit d'ouvrir un peu les yeux pour le voir, il suffit de regarder comment est construite la ville. Eh bien, cette ville est sous une malédiction qui agit, y compris sur nous, sur l'Église, et il faudra qu'on dégage ces esprits pour avoir la paix. On l'a fait pour l'Église, c'était un combat corps à corps que j'ai eu avec l'ennemi, et on l'a eu le 5 mai 2001 avec Abraham Keith. Là, je me rappelle comme c'était hier. Donc le bâtiment a été libéré, mais pas la ville. Donc maintenant, on est dans le projet Néhémie. Et vous, à l'époque, c'était présenté comme station balnéaire, un théâtre casino, des jeux, des golfs, etc. Et la recherche du bien-être en soi-même. C'était ça, l'objectif, rechercher le bien-être. Et aujourd'hui, l'Église, si on ne se bat pas, il veut que cette Église puisse être une Église d'entre-soi, du bien-être. On n'est pas là pour le bien-être de nous. On est là pour servir le Seigneur. On est là pour être missionnaire. On est là pour évangéliser, voyez-vous. Le bien-être, on l'a tout naturellement en Jésus. Mais si on n'évangélise pas, si on ne fait pas la mission, on est à côté de ce que Jésus a donné l'ordre à son Église. Et donc, il faut passer du bien-être en soi au bien-être du Seigneur, mais avec la mission qu'il nous donne. Donc le travail de reconstruction qui nous attend, des murailles et des portes, consiste à consacrer la ville au Seigneur Jésus et à accueillir des chrétiens de toutes les nations, ce qui est déjà le cas, il y a des gens de toutes les nations qui viennent, dans la ville qui deviendra une ville refuge de bien-être et de paix, une Jérusalem, une ville de shalom et un phare pour évangéliser. Voilà le dessein de Dieu pour cette église. Pour l'imaginer, pour vous montrer un petit peu la vision de cette ville que vous pouvez tous voir si vous prenez l'avion, vous regardez sur la ville, eh bien, vous allez voir effectivement une ville qui est particulière, hein, qui est tournée autour d'un soleil. C'est Horus, c'est la place de l'étoile. Et tout est orienté, ça s'appelle une héliopolis. Et il y a la même au Caire en Égypte, parce que la reine Élisabeth de Belgique travaillait avec le baron Empain, qui a créé la ville d'Héliopolis au Caire. Et les deux ont été érigés à peu près en même temps. Aujourd'hui, nous avons fait un certain parcours depuis qu'on est ici. Le parcours, c'est d'établir un temple. Et le temple, il est là. Physiquement, il est là, parce qu'à côté, malheureusement, c'est le Gibeon. Donc on est juste après, on est en dehors de l'image. Donc il y a le temple, maintenant il est là, et qui peut accueillir le public pour faire un culte, comme ce matin. Donc ça, c'est le premier point. Mais la ville, on n'a pas encore reconstruit les murailles spirituelles et les portes, parce que les portes, elles laissent entrer tout un tas de choses qui, voilà, sont contraires à Dieu et qui nous encombrent dans notre vie d'église. On ne pourra pas. C'est pour ça que je vous disais, les deux équipes sont automatiquement interdépendantes, parce que si on veut que l'Église marche bien, il faut que l'équipe de direction apostolique fasse le nécessaire pour que les murailles et les portes soient consacrées au Seigneur. Et que on devienne un phare à la place de la divinité égyptienne Horus. Autre image que j'aurais vous laisser ce matin pour vous impacter dans cette responsabilité que nous avons, c'est que le théâtre casino qui était ici d'Élisabeth de Belgique ressemblait à ça. Voyez-vous? Ça ressemblait à ça. C'est-à-dire qu'autour, il y avait comme un vrai théâtre, les balustres, comment on appelle ça, un balconnet, les balconnets. On a tout un souvenir de photos en bas qui vous prouve ça. Il y avait des balconnets de chaque côté. Et ici, c'était le théâtre qui allait jusqu'en bas, etc. C'était comme ça. Il y avait une hauteur de plafond énorme. Voilà. Et on l'a transformé. Donc ça, c'est le premier travail qu'on a fait, le Zorobabel. On l'a transformé en temple protestant pour dire Dieu est ma maison, Dieu est mon serment, c'est la maison de Dieu, la maison de l'Église, maintenant on va l'appeler la maison du phare, c'est là que Dieu va habiter. Et qu'est-ce que c'est devenu? Quand on l'a acheté, c'était ça. Et où? 90. Et encore là, on l'a nettoyé, hein. On a enlevé, vous savez, les grandes bennes de décharge, les grandes bennes, on en a enlevé 7, complètement, simplement en enlevant les radiateurs qui pendaient, les machins, enfin, c'était une horreur. Les gens qui passaient, qui se rappellent ça, ils ont dit, oh là là, mais c'est pas possible. De toute façon, ils voulaient la détruire au bulldozer. C'était prévu. M. Wildman me l'a dit. Ils voulaient détruire pour récupérer le terrain foncier, hein, qui est quand même très cher. Voilà. Donc là, on a déjà nettoyé. Il y a 7 bennes qui sont parties au nettoyage. Et voilà le résultat quand on l'a acheté. Et voilà 7 ans après, ce que c'est devenu. Tout a été refait. Les ouvriers de Christ ont tout refait. Du toit, de toutes les tuiles qui ont été changées, c'était les Portugais qui montaient à une échelle de 15 mètres. Ils faisaient tout à la main. Hein. Il n'y avait pas de machine à rien. Et deux Portugais qui montaient, qui descendaient. Toutes les tuiles ont été changées. La structure a été refaite, etc. Et à l'intérieur, eh bien, c'est devenu ça. Vous voyez ce que vous voyez maintenant. Il y a un aspect qui est resté, hein, on a gardé les éléments de la scène, mais voilà, un nouveau plancher, on a lancé un plancher, on a ici un baptistère, etc., pour qu'on puisse faire un culte. Voilà. Et de l'autre côté, vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Donc, vous voyez, pendant 7 ans, on a fait l'inauguration en 98, on était un ERP, donc établissement recevant du public, catégorie 3, pour accueillir le public. Alors j'aimerais vous laisser un slogan ce matin, un slogan qu'on gardera jusqu'à ce que le phare soit terminé, jusqu'à ce que cette vision soit terminée. Et ce n'est pas demain la veille, hein. Ça prendra du temps. Mais ce n'est pas un problème. Si Dieu est dans cette affaire, il se fera. Même si nous, on n'est plus là. Même si moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas indispensable. Vous voyez. Mais c'est un projet de 500 ans. Donc, vous voyez le nombre de personnes qui ont commencé. Simplement, il faut être fidèle à la vision. Pas un homme. Il semblerait, ces derniers temps, il y en a qui disaient « Ah, c'est la vision d'André, ils n'ont rien compris. » Moi, c'est la vision de Dieu que j'ai compris que Dieu voulait ici. C'est tout. Alors c'est sûr que quand on ne comprend pas ça, on s'en prend à des hommes. Mais si on voit Dieu derrière, on voit que c'est Dieu qui fait avancer les choses, voyez-vous. Et il faut avoir cette vision que c'est Dieu. Parce que ces ennemis qui étaient furieux à l'époque d'Esdras, qui viennent, ces ennemis, aucun homme ne peut résister à ces ennemis. Aucun homme. C'est les esprits. Donc il faut bien que ce soit Dieu qui terrasse. Et il est dit dans la Bible que le Père met sous les pieds de Jésus toutes les autorités et les puissances. Parce que ce sont des puissances qui sont plus que des démons, c'est des puissances qui organisent les démons, ce qu'on appelle le deuxième ciel. Eh bien, contre ça, on ne peut rien. Il n'y a que Jésus qui peut dire stop. Et quand Jésus dit stop, il dit stop. Il ne peut rien faire. Mais il faut qu'il arrive à dire stop parce qu'il nous voit dans l'obéissance, dans la repentance, dans la même vision. Si on a plusieurs visions, s'il y en a un qui a le phare et l'autre qui a le fraisier, par exemple, à l'époque, c'était le fraisier. J'ai rien contre le fraisier, sauf que le fraisier, aujourd'hui, il n'y a plus rien. On voulait remplir les Yvelines d'église de maison et aujourd'hui, il n'y a plus aucune. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de réussir. C'est comme les prophètes. Les prophètes, on les jugeait s'ils réussissaient. Sinon, on les lapidait. Ce qui est important, c'est que cette prophétie réussisse. Et moi, j'y crois, cette prophétie. Je crois que Dieu a un plan et qu'il veut faire ici un phare. Alors, levons-nous et bâtissons. Luttons et prions. Bientôt, le Maître va venir. Amen. Jérusalem, c'est ce que Dieu veut faire ici, c'est-à-dire une ville de paix, une ville de shalom. Shalom, c'est plus que le paix. C'est une protection, c'est quelque chose qui est beaucoup plus loin que la paix. Elisheva, c'est Dieu et ma demeure. Là, j'ai un chant, mais je ne sais pas si ça marche là-bas. Je ne sais pas, ceux qui connaissent ce chant, travaillons et luttons.
Travaillons et luttons, nous sommes hommes et cœurs. Suivons les doigts sans pied qui conduit à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons.
J'arrête là le chant, mais les paroles, vous savez, j'aime beaucoup les chants de l'époque, hein, dans le réveil, hein, c'est les chants de réveil. Hein. Ils avaient du sens, ils avaient un contenu. Ils avaient un contenu. C'est-à-dire, quand vous partiez, ce que dit Michel, elle a connu le réveil, elle a dit, ces chants-là, vous les chantiez dans la semaine, au travail, partout, etc., parce que ça vous fortifiait, parce qu'ils avaient du sens. Par exemple, la deuxième strophe, c'est « Quand les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance, vers la croix dirigeons le regard angoissé, pressons-les d'accepter Jésus, leur délivrance. » Voyez-vous, quand vous êtes sur le lieu de travail, je sais que vous faites, vous évangélisez, mais ça, c'est des chants qui vous boostent dans l'évangélisation. Et quand vous les chantez le dimanche, eh bien, vous remplissez de ça. Verset 3, enfin, troisième, « Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous, et l'Holocauste. En avant vers le but, le maître le demande. » Voyez-vous, on obéit au maître. Et le dernier couplet, c'est « Travaillons et luttons, sans jamais nous lasser, sans jamais nous lasser. » Là, c'est la persévérance. De notre Rédempteur, élevons la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Nous aurons du repos. Le Seigneur nous donne le repos dans sa grâce. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de lutter. Nous avons besoin de construire. Nous avons besoin de construire. Et prenez cet exemple de cette huguenote de pendant 34 ans. Il a dit résister, résister dans la tour de Constance. 34 ans jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Ça, c'est un exemple. Et cet exemple doit nous habiter pour dire, quelle que soit la résistance, eh bien nous suivrons notre maître, mais nous nous lèverons. Et j'étais très content du comité de direction, donc l'équipe apostolique en herbe, si vous voulez, qui s'est réunie fin août. J'ai présenté les trios de croissance, parce que depuis 6 mois, Dieu a réuni un trio, Constant, moi et Charles, Constant et moi, enfin on est un trio. Et ce trio est incroyable. J'ai jamais vu d'unité pareille depuis que je suis dans cette église. Parce que dans la prière, on prie, on partage la vision, on partage des choses qui vont dire, etc. Ça, c'est l'unité. L'unité, le 1 dont je parlais tout à l'heure, ça commence par 3. 3 et 1. Et ce projet va vous être présenté en octobre, en assemblée générale extraordinaire, donc une assemblée générale qui ne parlera pas de budget, quoi que ce soit, parlera juste de la vision, des trios, et qu'on est en train de préparer. J'ai commencé avec Michel à préparer ce trio sur Esdras et Néhémie, et sur tout ce qu'on a vécu ici, parce qu'on a déjà fait Esdras et Zorobabel. Il reste Néhémie à faire. Donc ça vous donnera sur une année, de novembre à mai, ça vous donnera de bien saisir la vision que j'ai tracée, mais alors très très rapidement ce matin, la vision du phare, pour être prêt à la mettre en pratique tous ensemble. Voyez-vous ? Néhémie, il a mis des mois et des mois et des mois à préparer la reconstruction des murailles et des portes, et il l'a fait en 52 jours, la ville de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'y est mis. Il y avait 44 équipes. 44 équipes. J'ai calculé, ça fait 174 572 heures de travail. Voilà. Donc effectivement, si tout le monde s'y met, s'il était tout seul, Néhémie, il aurait mis 163 ans. Vous voyez ? 52 jours. Parce que quand on se met ensemble, les amis, eh bien, il y a une puissance de frappe et de construction ensemble. Voilà. Donc je vais vous laisser avec ça et je voudrais prier pour que le Seigneur nous aide, que ce slogan puisse être le nôtre jusqu'à la fin de cette construction, quand on verra des gens arriver, quand on verra des conversions en masse dans cette ville, il y aura des conversions. Et ceux qui ne veulent pas se convertir, qui pratiquent de la magie, la sorcellerie, etc., ils seront obligés de partir parce que ça ne marchera plus. Et des chrétiens vont les remplacer, des chrétiens vont venir. On a déjà des prémices, hein, Jérôme avec sa maison, etc. Voilà. On a des choses, mais ça va être ça que le Seigneur va faire. Et ça, je le vois en vision. Et je vous encourage à visionner ce que le Seigneur va faire, et on s'attend à lui, et on prie. Travaillons et prions, luttons à genoux. Le Maître va bientôt venir. Amen. Seigneur, nous prions de nous aider à nous ressaisir pour que nous ne soyons pas indolents, comme si de rien n'était, comme si la vie continue. Non. Seigneur, nous voulons être prêts à te suivre. Nous voulons être prêts, Seigneur, à ne pas nous décourager, à nous encourager mutuellement. Et merci pour ces trios que nous allons constituer, Seigneur, que tu nous conduises encore dans les détails que nous sommes en train de partager avec Constant et Charles et avec toute l'équipe du comité de direction pour la mettre en place. Afin qu'il y ait un enthousiasme, Seigneur, comme au temps de Néhémie. Ils étaient tous enthousiastes parce qu'ils ont compris que ce que Dieu voulait faire, c'était rétablir Jérusalem, rétablir la ville où il voulait demeurer avec les siens. Et Seigneur, tu veux demeurer ici avec nous, pas seulement nous égoïstement, mais tous ceux à qui tu appelles à la vie, Seigneur. Et il y en a beaucoup. Et Seigneur, il y en aura de plus en plus, parce que Seigneur, tu as un peuple dans cette ville et dans cette région que tu vas rassembler. Merci Seigneur de m'avoir donné cet aperçu pendant cet été sur cette vision et cette analogie entre Seigneur Esdras, Néhémie et Zorobabel, et Seigneur avec ce que nous avons déjà vécu. Et aide-moi Seigneur à construire ce narratif, ce récit Seigneur, avec des détails qui nous aideront Seigneur tous à réaliser que c'est toi qui es vainqueur et c'est toi qui fais avancer les choses. Alors je te prie de bénir le peuple de Dieu que tu as rassemblé ici et que tous ensemble nous puissions, Seigneur, avancer ensemble pour ta gloire. Amen.